Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La situation est effectivement en Île-de-France à un niveau de tension qui est proche de la rupture.
Branle-bas de combat dans les hôpitaux d'Île-de-France. Ils sont sommés de déprogrammer 40% de leurs opérations afin de libérer des lits pour les malades du Covid en réanimation. Toujours plus nombreux et toujours plus jeunes. Les médecins généralistes en colère. Les doses avec lesquelles ils devaient vacciner leurs patients la semaine prochaine iront finalement aux pharmaciens. La famille royale britannique accusée de racisme. Interview choc de Harry et Meghan, selon qui un membre de la couronne se serait inquiété de la couleur de peau de leur premier enfant avant sa naissance. Les Anglais, eux, sont dubitatifs. Nous irons également aux États-Unis où le procès du policier blanc à l'origine de la mort de George Floyd est retardé. Un juge réclame d'ultimes débats sur la nature des charges qui pèsent contre lui. Un patron condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir envoyé des photos dénudées de son ex-DRH avec laquelle il avait eu une liaison. Le harcèlement n'a pas été retenu. Et puis nous entendrons le récit de 2 policiers qui sont tombés à pic au bon endroit, au bon moment, pour aider une petite fille à pousser son premier cri. La météo, elle sera lumineuse demain, du soleil sur une grande partie du pays. En revanche, couvrez-vous, le froid sera toujours de la partie, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en très forte hausse, plus 2,08% à 5 902 points. Et tous les détails à venir avec Didier Hamo de Boursier.com. L'interview écho, dans 20 minutes, seulement 5% des PDG dans le monde sont des femmes. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Sabina Belli, la patronne de la marque de joaillerie Pomellato. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un ordre ferme qu'ont reçu aujourd'hui les hôpitaux et cliniques d'Île-de-France. L'agence régionale de santé leur demande donc une nouvelle fois de pousser les murs pour accueillir plus de malades du Covid. 40% des activités médicales et chirurgicales doivent être déprogrammées et ce pour augmenter de 500 places le nombre de lits en réanimation. Service où la situation devient de plus en plus préoccupante en Île-de-France avec par ailleurs l'arrivée d'un nouveau profil de patients, Victor Delande.
Oui, l'âge moyen des patients a baissé. Il est aujourd'hui de 61 ans contre 64 il y a encore quelques semaines. Peut-être l'un des effets de la vaccination des personnes plus âgées dans les services de soins intensifs. Il n'est plus rare de voir des patients de 30-35 ans avec des comorbidités. 3 régions inquiètent particulièrement les autorités. Les Hauts-de-France, Provence, Alpes-Côte d'Azur et surtout, vous l'avez dit, l'Île-de-France où la pression s'accentue ces derniers jours. Rien que pour la semaine dernière, le nombre d'admissions de malades graves en soins intensifs a augmenté de 31% chaque jour. Ça veut dire entre 80 et 90 patients en plus tous les jours. Pour vous donner une idée, il y a autant de patients dans les services de réanimation en Île-de-France que 6 jours avant le pic de la deuxième vague en novembre dernier. Mais à ce moment-là, les contaminations baissaient car le pays était reconfiné. Aujourd'hui, l'inquiétude est beaucoup plus grande car ni le pays ni la région ne sont mis sous couvercle. Et les contaminations continuent d'augmenter.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. Cette demande de l'ARS en tout cas interroge. Le gouvernement a-t-il fait une erreur en choisissant de ne pas reconfiner le week-end, la capitale et les départements d'Île-de-France? Cette stratégie est-elle tenable alors que les hôpitaux franciliens sont d'ores et déjà saturés? Pour le professeur J.L.I. Hanan, chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches, seule certitude, tous les indicateurs sont au rouge.
La déprogrammation qui se met en place va nous donner transitoirement un peu d'air, mais si le nombre de patients continue d'augmenter, cette réserve supplémentaire ne sera pas suffisante.
Et donc il faudra reconfiner ?
Et donc il faudra probablement reconfiner, même si le gouvernement, on le sait bien, n'a aucune envie de passer à nouveau par cette mesure drastique. Mais il faudrait prendre des mesures maintenant pour faire en sorte que dans une dizaine de jours, la tension retombe.
Propos recueillis par Anne Le Gall pour Europe 1. 3 949 personnes sont ce soir en réanimation dans l'ensemble du pays, un niveau le plus haut observé depuis fin novembre. Du côté de la campagne de vaccination, elle a connu une accélération spectaculaire. 500 000 personnes ont reçu leur première injection ce week-end et d'ici 15 jours, le rythme des livraisons va s'intensifier. La France recevra alors plus de 2 millions de doses par semaine, promet la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Des vaccins en plus, oui, mais pas pour tout le monde. Les médecins généralistes sont furieux car ils ont appris que les doses d'AstraZeneca avec lesquelles ils devaient vacciner leurs patients la semaine prochaine iront finalement aux pharmaciens. Lionel Gougeot, vous êtes notre correspondant dans les Hauts-de-France et cette décision ne passe pas auprès des médecins.
Ah oui, et c'est même une vraie colère qui gagne les médecins de ville, à l'instar du docteur Calafiore à Waterloo près de Roubaix, qui va devoir annuler des rendez-vous de vaccination puisque les doses qu'il devait commander seront réservées à la vaccination en pharmacie.
On nous a demandé de prioriser les patients qui ont des problèmes de santé pour pouvoir les vacciner le plus vite. Donc on a commencé à organiser les vaccinations en leur fixant des rendez-vous. Et là, quasiment du jour pour le lendemain, on va devoir les appeler pour décommander les rendez-vous. Et les vaccins vont être redirigés vers les pharmacies et donc les patients qu'on va pas pouvoir vacciner nous. Est-ce qu'ils vont pouvoir être vaccinés par le pharmacien? C'est même pas sûr.
Situation ubuesque qui illustre une nouvelle fois la pénurie des stocks selon le docteur Calafiore, qui se demande par ailleurs si ce n'est pas ici aussi la conséquence des opérations de vaccination massive organisées ce week-end dans la région Nord.
Si on a fait des grandes opérations de vaccination là ce week-end, les vaccins, il a bien fallu les prendre de quelque part. Et donc, on peut imaginer qu'effectivement, si on n'a pas de livraison de vaccins dans les semaines qui viennent, c'est parce qu'ils ont été consommés ce week-end. Et donc, c'était pour faire de la communication. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne fait pas ce qu'il faut pour vacciner le plus vite possible.
Deux syndicats de médecins demandent maintenant la démission de Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, accusé de détournement de vaccins au profit des pharmaciens. À Tourcoing, le représentant de la CSMF appelle, lui, ses confrères à suspendre leur participation au centre de vaccination.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Situation contrastée chez nos voisins. L'Italie a franchi la barre des 100 000 morts liées au Covid. Deuxième pays le plus endeuillé d'Europe après le Royaume-Uni. Où les petits Anglais, eux, ont retrouvé aujourd'hui le chemin de l'école, une première depuis début janvier. La Grande-Bretagne, où le retour en classe des enfants a été totalement éclipsé par des confidences explosives. Celle de Meghan Markle et du prince Harry, interrogée par la star de la télévision américaine Oprah Winfrey. La duchesse confie notamment avoir pensé au suicide lorsqu'elle faisait encore partie de la famille royale. Elle a aussi révélé qu'un membre de la couronne se serait inquiété de la couleur de peau de leur premier enfant avant sa naissance. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Cette interview fait l'effet d'une bombe outre-Manche parce qu'elle suggère que la famille royale serait raciste.
Oui, ces accusations sont graves car elles pourraient avoir des conséquences terribles en termes d'image pour la famille royale. Selon Oprah Winfrey, qui s'est exprimée tout à l'heure, ce n'est ni la reine ni le prince Philippe, son mari, qui sont en cause. À Londres, Sylvain, retraité fan de la monarchie, lui, ne croit pas à la véracité de ses reproches.
Moi, je pense que personne n'a fait de commentaire sur la couleur de peau du bébé. Je pense que c'est certainement une remarque anodine qui a été sortie de son contexte. La famille royale n'est absolument pas raciste. Ils ont des liens forts avec les pays du Commonwealth depuis des années. Et avec des personnes de toute nationalité.
Mais ces accusations sont prises au sérieux par une bonne partie de la classe politique. Des élus travaillistes réclament l'ouverture d'une enquête par le palais sur cette affaire. Les Britanniques, eux, restent très divisés à l'issue de cette interview, à l'image d'Edwin et Lisa.
On est censé admirer cette institution, mais la société évolue. Et s'ils restent bloqués au siècle dernier, alors ça veut dire qu'ils n'ont plus leur place dans le monde actuel.
J'étais une grande fan de Harry et Meghan, mais c'est fini. Ils recherchent l'attention de la presse et après ils se plaignent des intrusions. Par contre, ils utilisent les médias quand ça leur convient, donc il ne faut pas se plaindre.
Et selon un sondage paru aujourd'hui, 56% des Britanniques affirment n'avoir aucune ou très peu de compassion pour Harry et Meghan.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Direction maintenant Minneapolis, aux États-Unis, là où il y a 9 mois, George Floyd était tué, étouffé par le genou d'un policier blanc sur sa nuque. Scène filmée et largement diffusée sur Internet, qui avait soulevé une vague de protestations et de manifestations dans de nombreux pays du monde. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui que ce policier, Derek Chauvin, devait être jugé, mais l'ouverture du procès est finalement retardée. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Procès retardé donc parce qu'en ce moment, au lieu d'ultime tractation pour déterminer la nature exacte des charges qui pèsent contre Derek Chauvin.
Oui, alors à l'heure actuelle, Derek Chauvin est accusé d'homicide involontaire au deuxième degré et le juge attend une clarification de la cour d'appel pour rajouter ou non des charges de meurtre au troisième degré. Cela donnerait une possibilité supplémentaire à l'accusation pour faire condamner l'ancien policier. Le tribunal a donc décidé de reporter à demain le début de la sélection du grand jury. Ce sont ces 12 personnes qui décideront de condamner ou d'acquitter Derek Chauvin. L'ancien officier de police remis en liberté sous caution s'est présenté au tribunal aujourd'hui, masqué en costume cravate aux côtés de son avocat dans la salle d'audience. En tout cas, c'est un long procès qui débute. La sélection du jury doit durer plusieurs semaines. La défense et l'accusation vont scruter les profils et les parcours de ces jurés. Les premiers témoignages et plaidoiries sont prévus à la fin du mois de mars pour un verdict attendu fin avril, début mai. Le tout alors que la sécurité dans le centre-ville de Minneapolis a été renforcée, blocs de béton, grilles métalliques surmontées de fils barbelés autour des bâtiments gouvernementaux et déploiement de la garde nationale, cela n'a pas empêché des manifestants de se réunir à nouveau ce matin devant le tribunal pour faire pression sur la justice et obtenir une condamnation de Derek Chauvin.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Autre procès aujourd'hui, celui de la cellule d'Argenteuil devant la cour d'assises spéciale à Paris. Sept hommes suspectés d'avoir voulu perpétrer un attentat avant l'Euro de football en 2016. Parmi eux, le braqueur multirécidiviste Reda Cricket, qui gardait à son domicile un arsenal d'une ampleur inédite. Nouvelle rixe entre bandes rivales en région parisienne. Deux adolescents de 14 et 15 ans ont été grièvement blessés ce soir par arme blanche. Ça s'est passé vers 18h à Champigny-sur-Marne, dans le Val-d'Oise. Quatre suspects ont été arrêtés par les policiers et la BAC. Les deux blessés, quant à eux, ont été hospitalisés. Et l'un d'entre eux serait entre la vie et la mort. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil. Notez que le garde des Sceaux sera demain matin l'invité de la matinale d'Europe 1. Éric Dupond-Moretti répondra à partir de 8h15 aux questions de Sonia Mabrouk. En cette journée internationale des droits des femmes, plusieurs milliers de personnes ont manifesté un peu partout en France pour réclamer l'égalité femmes-hommes. Et le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui se tenait le procès d'un patron accusé d'avoir harcelé et humilié son ancienne DRH. Ils avaient une liaison, elle avait décidé d'y mettre fin et de quitter l'entreprise. Alors pour se venger, l'homme avait envoyé des photos d'elle dénudée à ses nouveaux collègues, à sa famille, ses amis, sa paroisse et même aux parents d'élèves des écoles de ses enfants. La justice l'a condamné à 2 ans de prison avec sursis, mais le tribunal n'a pas accepté de requalifier les faits en harcèlement, Chloé Triomphe.
Oui, et à la sortie de l'audience, la victime, visiblement affectée, était loin d'être soulagée.
Le procès ne m'a pas faite bien, non. Je tenais à être reconnue victime de harcèlement. Vous savez, je suis DRH, donc je connais très bien la définition juridique du harcèlement. Qu'est-ce qui fait que je tiens bon aujourd'hui? C'est parce que j'ai mon mari à mes côtés, que j'ai mon employeur actuel qui m'a soutenue. Mais je suis détruite de l'intérieur. J'ai failli mettre fin à mes jours plusieurs fois à cause de cette affaire. Voilà ce qui se passe, la journée des droits de la femme.
Même sentiment de son avocat, maître de la Morandière.
Monsieur Dan Bloch a été reconnu coupable d'une série d'infractions, violation de correspondance, intrusion dans un système automatique de données. Pour nous, en fait, c'est sûr que mes clients ont un sentiment de justice inachevée, puisque la demande de requalification en fait, de harcèlement n'a pas été reconnue à ce moment-là. Donc ça nous laisse d'autres possibilités procédurales qu'on va apprécier dans les prochains jours.
Il compte donc engager une nouvelle procédure, cette fois sous la qualification de harcèlement, un mot symbolique que la victime aimerait entendre prononcer par la justice.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. La police qui nous offre ce soir une très jolie histoire. Ça s'est passé ce matin à Ris-Orangis, en banlieue parisienne. Deux agents dévoués, Sébastien et Virginie, qui ont mené une opération pas comme les autres. Écoutez.
J'ai vu cette dame allongée par terre et j'ai vite compris qu'elle était enceinte et qu'elle avait des contractions très très rapprochées. Donc il faisait froid, il faisait moins 2 degrés le matin. Le papa était à côté, mais il ne savait pas trop quoi faire. J'ai commencé à regarder et puis là l'équipage de Virginie est arrivé. Donc j'ai préféré laisser ma place à Virginie.
Donc moi je suis allée sous une couverture de survie, sous la robe de la dame. Et en fait c'est vraiment dur pour elle, elle a très très mal et je la comprends tout à fait, elle n'a pas de péridurale. C'est très violent, ça va très vite. D'un seul coup, je vois des petits cheveux noirs qui sortent. Les pompiers ne sont pas là, tant pis. Je me suis rappelé de mon accouchement. Je l'ai mis dans la même position, je l'ai mis sur le dos. Et puis d'un seul coup, expulsion du bébé. Et en 2 secondes, le bébé, il était là. On l'a entendu pleurer immédiatement. Donc là, c'était le gros soulagement. Moi, j'ai les larmes qui sont arrivées. D'émotion, hein. J'étais contente que tout se passe bien, j'étais contente pour la maman du beau bébé qui était une petite fille, donc on lui a dit que c'était une petite fille. Donc les pompiers l'ont vite emballé avec la couverture de survie parce qu'à moins de 2 degrés c'était horrible, la maman a claqué des dents et de là le SMUR est arrivé, ils l'ont emmené à l'hôpital. Le pauvre papa qui était un peu perdu, il était resté sur place, les pompiers ils n'ont pas pensé que c'était le papa, donc nous on s'occupait du papa, comme ça on les a accompagnés jusqu'au bout, c'était le top, c'était beau, franchement c'était beau, ça change de notre quotidien où parfois c'est très difficile et franchement c'est génial. Nous on est contents, on a du bonheur enfin et ça fait du bien.
Virginie et Sébastien, de policiers du commissariat d'Evry dans l'Essonne, joints par Guillaume Bier pour Europe 1 La petite fille qui est en pleine forme s'appelle Myriam. Elle s'appelle Perrine, Perrine Lafont, et c'est une surdouée à seulement 22 ans. La skieuse acrobatique a tout remporté dans sa discipline. La Pyrénéenne a été sacrée tout à l'heure championne du monde de ski de bosse. Le seul titre majeur qui lui manquait. On passe à la météo. Anissa Haddadi, la journée de demain sera bien lumineuse.
Oui, après la dissipation des brouillards matinaux, Julien, dans le sud-ouest, l'Auvergne et la Bourgogne, c'est vrai, vous avez raison, le soleil va se montrer assez généreux sur la plupart des régions. Alors notez que sur les Ardennes et la Lorraine, là, le temps reste sec mais très gris, demain toute la journée. Sur la Côte d'Azur et la Corse, nous avons des averses et des chutes de neige à partir de 1300 mètres en altitude. Donc, et puis, dans l'ensemble, la journée est très agréable. Ce sera d'ailleurs la journée la plus lumineuse de la semaine demain. Profitez-en, mais couvrez-vous parce que malgré le soleil, nous aurons un froid matinal assez fort avec des gelées. Moins 5 à moins 2 degrés dans le centre et l'Auvergne demain. Nous aurons moins 4 à Montluçon, moins 3 à Clermont-Ferrand, moins 2 à Bourges et Limoges, moins 1 degré à Saint-Étienne et Nantes, et puis 2 à 10 degrés partout ailleurs demain matin, 2 à Paris, 5 à Nîmes et 10 la maximale pour Ajaccio. Et au meilleur de la journée, nous aurons 7 à 16 degrés avec un léger redoux sur la moitié nord, 7 pour Saint-Étienne, 10 à Besançon et Lille, 12 pour Paris, 14 à Bastia et la maximale est prévue pour Marseille avec 16 degrés.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de boursier.com, suivi de l'interview Echo. Seulement 5% des PDG dans le monde sont des femmes. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Sabine Abelli, la patronne de la marque de joaillerie Pomellato. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h17 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street débute la semaine dans un marché à deux vitesses, avec les technologies en baisse d'un côté et les valeurs bancaires en hausse de l'autre.
Oui, un marché vraiment coupé en deux, comme la semaine dernière, ça ne change pas. Le Dow Jones est en hausse, plus 0,97%, 31 802 points. Et donc le Nasdaq, avec les valeurs de technologie, recule nettement de 2,41%. La purge se poursuit sur les valeurs technologiques, 12 609 points. Le plan de relance budgétaire de 1900 milliards de dollars proposé par Joe Biden a été validé par la Chambre des représentants en fin de semaine dernière. Son adoption, qui sera définitive, n'est plus qu'une question de jours. De quoi alimenter les espoirs de reprise économique et pousser le secteur bancaire à la hausse. Goldman Sachs, plus 2,2%. JP Morgan, plus 1,3%. Morgan Stanley, plus 0,2%. Les valeurs industrielles aussi en profitent. General Electric, plus 4,3%. Boeing, plus 0,4%. En revanche, donc, ça purge encore sur les valeurs de technologie, des prises de bénéfices hein, sur les technologies comme Apple, moins 4%, 116,36 $. Des baisses assez nettes hein, sur Tesla, moins 5,8% à $563 encore. Facebook, moins 3,4%. Google, moins 4,3%. Amazon perd 1,6%. Microsoft, moins 1,8%. Le pétrole est monté jusqu'à $70 au plus haut depuis plus d'un an sur le baril de Brent. Il redescend un petit peu ce soir, $68.10 sur quelques prises de bénéfices. L'euro revient aussi en arrière, 1,1845 face au dollar.
La Bourse de Paris a gagné plus de 2% ce soir avec un indice CAC 40 de retour sur les 5900 points.
Oui, ça a accéléré hein, nettement dans l'après-midi, plus 2,08% exactement sur le CAC 40, 5902 points au plus haut depuis plus d'un an, depuis le début de la crise sanitaire en février 2020. Les investisseurs anticipent clairement une reprise de l'activité économique d'ici au deuxième semestre avec l'accélération de la campagne de vaccination. Les secteurs qui ont le plus baissé ces derniers mois remontent donc. On a les foncières, par exemple, Unibail, plus 8%, Klépierre, plus 7,5%, les valeurs de l'événementiel, comme General Events, plus 8,8% à €13,50, les banques, donc, avec la Société Générale, plus 4,5%, BNP, plus 3%, ou le Crédit Agricole, plus 3% aussi. Les pétrolières, qui continuent de remonter, on a Technip, plus 5%, CGG, plus 4%. 4,3% exactement sur CGG. Et puis Vallourec, plus 2%. Et puis l'aéronautique aussi qui se reprend. Airbus, plus 5%. Airbus qui reprend de la hauteur sur la barre des 100 euros. Safran gagne 5%, 125,55 euros ce soir à la clôture.
Exception du jour, les valeurs défensives qui ont de nouveau baissé.
Comme à chaque fois, sur chaque accélération du marché à la hausse, les valeurs défensives, les valeurs refuges reculent. Euronext, moins 3%, le secteur des spiritueux, Pernod Ricard, moins 1%, Rémy Cointreau est stable ce soir, 158 euros. Puis les valeurs santé reculent, comme Biomérieux, moins 1%, à 107,50 euros. Sur les autres places financières, ça monte partout et ça monte nettement. Le DAX à Francfort, plus 3,3%, Bruxelles, plus 2,4%, Milan gagne 3%, Zurich 2%, Londres 1,3% et donc le CAC 40 en hausse, en forte hausse de 2,08%, 5902 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de boursier.com et à demain. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Sabine Abelli.
Bonsoir.
Alors je vais le dire, je suis quand même un petit peu impressionné là de parler avec vous ce soir sur Europe 1. Vous faites partie des 5% de femmes patronnes dans le monde. Vous dirigez Pomellato, qui est une célèbre marque de joaillerie à la base italienne qui appartient maintenant au groupe Kering, le propriétaire notamment d'Yves Saint Laurent. Chaque année, Pomellato est notamment très engagé à l'occasion de cette journée des droits des femmes. Quel message vous voulez faire passer encore en plus cette année ?
Nous aimerions que ce soit la journée des femmes tous les jours, mais on est tout de même content qu'il y ait au moins une journée où on puisse élever un petit peu plus la voix et la conversation autour des femmes. Alors, pour Pomellato et pour le groupe Kering, ce sujet des femmes est très important à plusieurs égards. D'abord parce que on s'est rendu compte que, bien évidemment, depuis quelques années, avec le mouvement MeToo, notamment, les femmes ont besoin d'un espace de communication pour pouvoir raconter un certain nombre d'injustices ou d'éléments douloureux de leur vie qui ont attrait parfois à la discrimination ou à une difficulté d'accéder tout simplement à leurs rêves. Mmh. Alors déjà dans le domaine du travail, on sait que bien évidemment les femmes ont des difficultés à accéder aux postes de grande responsabilité, de top management. Moi-même, par exemple, en étant CEO de ce groupe, je fais partie des 5% des CEO femmes dans
et
le monde.
Et ce qui est impressionnant, c'est que vous le revendiquez, puisque dans la biographie que l'on fait passer quand on prépare des interviews avec vous, ce qui a donc été mon cas pour faire cette interview, j'ai reçu ce communiqué qui commence par cette phrase « Elle fait partie des 5% de femmes patronnes dans le monde ». C'est très peu, bien évidemment. Il en faut beaucoup plus.
Absolument. Et je peux vous dire que quand j'étais nommée à ce poste, ça ne me traversait pas l'esprit que ça puisse être un sujet de conversation, parce que j'ai toujours travaillé. Ma mère a toujours travaillé. J'ai toujours fait partie d'un univers où les femmes travaillaient et pouvaient accéder, en effet, à une carrière. Mais quand j'ai vu ce pourcentage-là, je me suis dit que vraiment, il devait y avoir un vrai problème parce que je prétends que pour être CEO, il ne faut pas être un génie. Donc, la discrimination est effectivement le revers de ce pourcentage si infime.
Mais justement, alors, si on prend peut-être votre cas personnel, juste si on s'arrête un instant là-dessus, il faut quand même quelque chose en plus. Ça ne peut pas être que de la chance. Qu'est-ce qui fait que, d'après vous, vous avez si bien réussi, Sabine Abelli ?
Je pense la volonté vraiment de vouloir y arriver. Parce qu'on parle souvent du fameux plafond de verre qu'il faut en effet essayer de percer, mais on oublie de parler du sol collant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi essayer de s'élever vers ses ambitions, ses envies, et de faire fi d'une manière assez volontariste des écueils ou des problèmes que l'on peut trouver sur ce chemin. Et notamment celui de décider de pouvoir poursuivre une vie privée, familiale, de mère, avec une vie professionnelle, et ne pas se laisser influencer sur le regard social et par les éventuelles pressions qu'on peut recevoir, notamment dans la famille.
Bien sûr.
Alors que ce débat ne se pose pas quand les femmes sont dans l'obligation absolue de travailler. Mais je suis contente de voir que, par exemple, chez Pomellato, 74% de la masse salariale ce sont des femmes. Et au niveau de mon comité exécutif, nous sommes 6 femmes sur 2 hommes. Donc la parité est plus qu'atteinte.
C'est vous qui vous êtes dit, bah, je vais faire monter les femmes.
Oui, alors là, vous ne trouverez pas chez moi une grande fanatique des quotas roses, etc. Parce que bon, d'un côté, je trouve que c'est bien de les avoir mis en place. Au moins, ça ouvre le débat et les perspectives. Mais je pense qu'il faut surtout se poser toujours avec un regard à compétences égales qui j'embauche. Et à compétences égales, si la femme est totalement remarquable pour le job, bah, il faut l'embaucher absolument.
Mais si on prend votre exemple justement de Pomellato, vous disiez Sabine Abelli, 6 femmes pour 2 hommes dans votre comité de direction. Les femmes sont sacrément performantes chez vous alors ?
Oui, totalement. Elles ont,
c'est bien que vous les avez décelées même plus tôt. Vous avez dit, tiens, ces femmes-là vont avoir du potentiel.
Oui, tout à fait. C'est vrai que il y a certainement chez moi une forme de solidarité et de sororité d'une certaine manière pour essayer d'identifier des talents féminins qui peut-être dans des processus de recrutement, etc., seraient passés un petit peu à la trappe. Effectivement, à compétences égales, je préfère embaucher une femme.
Quel est quand même le petit conseil que vous pourriez donner en plus ?
Alors, je crois qu'il faut aussi regarder un petit peu dans les dernières années le parcours qui était demandé en quelque sorte aux grands dirigeants ou aux top managers qui traditionnellement, historiquement, venaient plutôt de filières comme la finance ou le commerce ou l'économie où, en effet, on trouvait moins de femmes qui poursuivaient ce type de carrière. Les femmes, on les trouvait plutôt dans les carrières de RH, ressources humaines, formation, marketing, communication. Et donc, peut-être que le vivier de profils disponibles dans les femmes qui pouvaient accepter ce genre de poste était inférieur. Aujourd'hui, depuis quelques générations, on trouve aussi non seulement des femmes qui sont préparées sur les sujets dont on venait de parler, mais aussi les postes de haute responsabilité ont été ouverts à d'autres profils que ces profils traditionnels d'ingénieurs, grandes écoles de commerce ou écoles, grandes écoles en France notamment, polytechniques, etc., qui étaient un petit peu la voie royale pour arriver là. Et en effet, on trouvait moins de filles. Et peut-être aussi que cette époque de smart working, etc., ait donné d'autres modalités de fonctionnement dans l'entreprise où finalement d'autres formes de talents et d'autres formes de valeur ajoutée peuvent cohabiter par rapport à cette vieille vision un petit peu plus hiérarchisée de le top et le reste du monde, on va dire.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas Sabine Abelli pour tous ces propos. Je rappelle que vous êtes la patronne de Pomellato, hein, qui est une célèbre marque de joaillerie qui appartient au groupe Kering. Un grand merci à vous. Nous, on se retrouve demain 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et ce sera à nouveau une femme qui sera à l'honneur. Vous recevrez Mathilde Thomas, cofondatrice de la marque de cosmétiques Caudalie. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Hôpital public, l'autonomie à petite dose, titre l'Opinion qui s'intéresse au plan d'investissement dans le système de santé qui sera présenté demain par le gouvernement. C'est le deuxième volet du Ségur de la santé. 19 milliards d'euros sur 10 ans, dont 13 consacrés à la reprise de la dette hospitalière qui asphyxie le secteur. Une enquête à la une de Libération, guerre numérique, opération Avatar, titre le journal qui s'est penché sur la discrète lutte informationnelle de l'armée française sur Internet. De quoi s'agit-il exactement ? Principalement de faux comptes sur les réseaux sociaux créés dans le seul but de contrer la propagande en ligne de groupes terroristes ou d'États hostiles. Et oui, l'armée française a des cybersoldats dont les effectifs ont explosé suite aux attentats de 2015. Ces agents qui ne sont pas des hackers sont tenus d'opérer dans les limites de la légalité. Ça ne les empêche pas de ruser, comme en 2016 lorsqu'ils ont conçu et diffusé un vrai faux exemplaire du journal de l'État l'État islamique. La couverture avait été légèrement modifiée et les pages intérieures laissées vierges afin d'éviter de se rendre coupable d'apologie du terrorisme. Le faux journal est sorti au moment où Daesh s'apprêtait à publier son numéro. Information obtenue grâce aux infiltrés dans la mouvance. Résultat, panique chez les djihadistes qui ne comprenaient pas d'où venait cette édition. Enquête passionnante à lire demain dans Libération. On termine avec le Figaro Echo qui nous apprend que l'on peut dans certains commerces payer par carte mais sans passer par un terminal de paiement classique ni insérer sa carte nulle part. Non, il suffit de la poser sur le smartphone du commerçant. Une expérimentation est menée depuis plusieurs semaines dans 70 magasins clients du Crédit Agricole. C'est une première en France.